France Inter.
Ancien travailleur social, l'écrivain Jean-Baptiste Delamo a reçu le prix SAD pour Pornographia, le prix du Livre Inter pour Règne Animal, le Goncourt du premier roman pour Une éducation libertine, le prix du roman FNAC pour Le Fils de l'Homme, et je ne vais pas tous les citer. Il arrive que les prix ne coïncident pas avec le talent. Ici, c'est l'inverse, l'homme a des récompenses et du style, il doit donc avoir autant d'admirateurs que d'ennemis. Son univers sensuel et brutal se déploie dans son nouveau roman à travers un hommage aux récits horrifiques de Stephen King et aux ambiances de certains films d'adolescents de Steven Spielberg, mais ça, c'est un avis personnel. La nuit ravagée, parue chez Gallimard, se passe à Saint-Oche, petite bourgade en périphérie de Toulouse, au début des années 90. Un groupe d'adolescents se retrouve fasciné par une maison abandonnée au fond d'une impasse et dans laquelle on peut autant voir des spectres qu'assouvir ses fantasmes ou devenir fou. Vous prévenir qu'il y a des morts ne déflore aucunement l'intrigue qui ravive la fin d'un siècle dont les inquiétudes passent aujourd'hui pour une insouciance perdue. Mais la sombreur et la tragédie n'ont-ils pas finalement toujours été présents, prenant parfois des formes plus visibles que d'autres ? Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jean-Baptiste Delamo.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Oh, je pense que c'est les premiers jours du printemps. Là, je vis à la campagne, en bordure de forêt, et j'ai une pâture avec quelques moutons. J'étais allongé là avec mes moutons et j'ai vu sortir un groupe de cerfs et de biches des bois qui sont restés à nous observer un moment, et c'est ça qui m'a réjoui.
Voilà. Est-ce que les moutons cherchent la société ?
Ils cherchent la compagnie. Déjà, ce sont des animaux sociaux, donc c'est très important de les garder en troupeau. Et comme j'en ai nourri certains au biberon, qui étaient des rescapés d'élevage, je garde un lien particulier avec eux. Ouais.
Vous étiez, avant d'écrire, travailleur social en Occitanie, dans l'Hérault et le Gard. Vous vouliez travailler vite et avoir un travail militant.
C'est vrai, j'ai grandi auprès de parents investis dans le milieu associatif et je ne crois que je n'étais pas fait pour l'école. Donc très rapidement, j'ai eu ce désir d'en finir avec les études, avec cette envie d'être utile, de faire un métier qui ait du sens.
Et c'est vers la fin de votre contrat que vous avez obtenu le premier prix à un concours auquel vous avez soumis une nouvelle ?
Ouais, alors en fait c'était la fin des contrats emploi jeunes, donc j'avais eu un licenciement économique, quoi, enfin une fin de contrat par licenciement économique. Et à la même période, j'avais soumis donc une nouvelle pour le prix du jeune écrivain. Et suite à ça, je me suis dit, prends-toi une année sabbatique pour écrire un roman, avec simplement l'idée de l'envoyer à quelques éditeurs qui éventuellement me feraient un retour. Et j'ai écrit une éducation libertine que j'ai envoyée à 4 éditeurs parisiens.
Et vous avez eu combien d'acceptations sur les 4 ?
2. J'ai eu 2 acceptations, dont Gallimard.
Parce que ça a été quand même le Goncourt du premier roman en 2018. Et la question que je me pose, c'est comment avez-vous fait pour avoir une discipline étant livré à vous-même et à la séduisante et vénéneuse oisiveté ?
Je pense que j'étais porté par la foi du primo romancier, finalement. Et aussi cette part d'innocence qu'on perd totalement dès le deuxième roman.
D'ailleurs, oui, le deuxième, vous avez eu du mal à le faire, à vous affranchir de l'attente des lecteurs.
Absolument, ouais. Je pense que, ça a été un tel bouleversement dans ma vie, la publication du premier livre. C'était quelque chose que je n'avais absolument pas attendu, ni même imaginé. Et ça m'a demandé un temps pour retrouver quelque chose, ne serait-ce que le désir d'écrire, déjà.
Parce que vous aviez peur ?
Je pense que j'avais besoin de comprendre ce qu'allait être ma vie avec l'écriture. Et que pour ça, il m'a fallu quelques années. Déjà pour saisir ce qui allait changer de mon quotidien, de mon rapport avec mon métier précédent de travailleur social. Et puis aussi de comprendre ce que moi, en tant que nouvel écrivain, j'allais vouloir explorer, ce que j'allais vouloir faire.
Oui, parce que vous êtes passé finalement d'un métier où on est sans cesse en train de côtoyer des gens à un métier qui nécessite la plus grande des solitudes.
C'est vrai, une grande solitude dont j'ai rapidement compris qu'elle pouvait aussi être un enfermement et un appauvrissement. Donc j'ai toujours cherché à garder à la fois un engagement personnel, citoyen, militant. J'ai toujours cherché à favoriser les voyages, les rencontres et parfois aussi les immersions dans des réalités qui me nourrissent, parce que sinon je crois qu'on s'épuise en fait dans cette solitude de l'écriture.
La 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Jean-Baptiste Delamo, on parlait du contraste entre votre métier de travailleur social avant et la solitude de l'écrivain. Et j'ai lu qu'entre les différentes phases d'écriture, il vous arrivait parfois de prendre des CDD pour quelques mois pour revenir à une certaine normalité. Là, je vous cite, qu'est-ce que c'est que cette normalité et est-ce que ça fonctionne ?
Alors, c'était vrai il y a quelques années, effectivement. J'ai travaillé, par exemple, comme entomologiste pendant quelques mois.
Vous adorez les insectes ?
J'adore les insectes, ouais. Ça a toujours été une passion depuis l'enfance, enfin les insectes et autres créatures. Mais bon, très rapidement, à chaque fois que j'ai remis véritablement un pied dans le milieu du travail, j'ai toujours senti que ça m'écrasait, qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que je m'échappe aussitôt. Donc ça n'a jamais été des expériences de longue durée. En revanche, aujourd'hui, j'essaie, quand je le peux, de faire des immersions. Par exemple, j'ai passé l'an dernier 10 mois dans un institut médico-légal. Quand j'ai cette chance-là, en fonction des rencontres que je peux faire, j'essaie de me nourrir véritablement de ces instants avant de retourner à cette solitude qui est malgré tout nécessaire, qui est celle du temps de l'écriture.
Alors par exemple, l'Institut médico-légal, il est question de cadavres. Mmh. Et là, on parle d'insectes. Et ce que j'ai envie de vous demander, parce que là, on va parler de votre livre dans un instant, La nuit ravagée, dans lequel il est question de scolopendres et de tégénaires mortes. Et je n'aurais pas dû googliser. Ce sont de très très grandes araignées. Rien ne vous dégoûte ?
Justement, la scolopendre, j'avoue avoir quelques difficultés. C'est probablement une des seules créatures au monde qui peut vraiment me hérisser les poils. Mais sinon, non, j'ai pas... disons que je regarde souvent le monde et les choses avec peut-être ce regard de l'écrivain qui cherche immédiatement de quelle façon est-ce qu'il pourrait se l'approprier ou le retranscrire ou le décrire. Donc par exemple, pour l'Institut médico-légal, on pense immédiatement aux odeurs et pour moi, en fait, c'était un territoire d'exploration extraordinaire. Je me suis aperçu, j'ai souvent, la mort est très présente dans mes livres depuis une éducation libertine. J'avais souvent eu l'occasion de décrire des corps morts. Eh bien, je me suis aperçu dès la première autopsie qu'un corps humain mort n'avait absolument pas la même odeur qu'une charogne animale. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que par instinct, il y a quelque chose qui doit nous alerter que quelque chose ne va pas, qu'il y a le corps d'un de nos semblables qui repose là, mais... immédiatement, pour moi, c'était comment est-ce que tu vas décrire cette odeur-là ? Comment est-ce que tu vas essayer de trouver les mots justes pour décrire cette réalité ?
Et à quoi ça ressemble justement l'odeur d'un mort ?
Alors, il faut dire que c'est très variable en fonction des circonstances de la mort, mais il y a quelque chose d'assez indéfinissable et qui nécessiterait de passer par des synesthésies, par des associations de couleurs, etc. Parce que c'est véritablement quelque chose qui nous saisit de manière très viscérale et qui, je crois, ne peut être finalement restitué que de manière quasi poétique.
Oui, parce que par exemple, un chien mouillé, on peut dire que c'est un mélange de fromage et de pied. On peut faire une association connue, mais un cadavre, on ne peut pas.
Ça me semble
inédit.
Ouais, ça me semble assez difficile par les mots de poser des termes qui définiraient, par exemple, pétrichor pour l'odeur de terre mouillée. Bon, il n'y a pas de mots comme ça qui permettraient de décrire exactement ce que sent un cadavre. Et d'ailleurs, il n'y a pas un cadavre, il y a autant de cadavres qu'il y a de circonstances de mort. Mais c'est immédiatement, en tout cas pour moi, c'est un défi d'écrivain, de me dire comment est-ce que tu vas restituer ça et comment est-ce que surtout, non seulement tu vas le restituer, mais tu vas réussir à provoquer chez le lecteur la même sensation physique qui a été la tienne.
Et ça, on va revenir à cette sensorialité parce qu'on la ressent à chaque ligne. On parlait de votre engagement il y a quelques minutes, ça a toujours été présent et vous confiez à Tétu en 2021 que vous veillez à garder un pied dans le milieu associatif, que vous étiez très militant pour certaines actions, pour la cause animale, SOS Méditerranée par exemple, et vous avez ajouté « Je défends aussi le fait d'être un écrivain homosexuel ». Et je voulais vous demander si pour vous, un écrivain est défini par sa sexualité.
Ce n'est peut-être pas le cas pour les auteurs hétérosexuels qui n'ont pas eu à se construire de façon identitaire contre finalement le reste du monde, contre la norme. Mais pour les écrivains homosexuels, je pense que c'est effectivement constitutif de la manière dont dont leur imaginaire s'est construit. Pour moi, ça a été une part extrêmement importante de mon enfance, de mon adolescence, de mon appréhension du monde aussi. Cette expérience de la différence, elle a complètement transformé ma perception du monde, bien évidemment ma perception de l'écriture. Et c'est pour ça que il me tient à cœur de le revendiquer, parce que c'est cette expérience-là qui a fait éventuellement la singularité de mon travail d'écrivain aujourd'hui.
J'ai dressé dans ma tête une grande liste de plusieurs de mes écrivains préférés. Je me suis rendu compte que, hommes ou femmes, ils étaient tous homosexuels.
Ah oui.
Et alors, parmi mes écrivains adorés hommes, il y a Wilde, Genet, Dustan, Bret Easton Ellis, Denis Cooper, Chuck Palahniuk, Cocteau, Truman Capote, Allen Ginsberg, William Burroughs. Pour vous, est-ce que ce sont tous des écrivains homosexuels ou simplement des écrivains ?
Alors, ce sont les deux. Ce sont à la fois tous des écrivains.
Il y en a qui ont changé aussi au cours de l'écriture, comme Bret Easton Ellis, Chuck Palahniuk.
Oui, c'est vrai, ils ont été beaucoup plus fluides, finalement. En tout cas, moi, je retrouve chez tous une sensibilité homosexuelle, c'est-à-dire une sensibilité qui est construite sur la différence, qui est construite sur une attention portée au monde, sensiblement décalée. Et finalement, c'est pour ça, moi aussi, que j'ai trouvé, en tant que lecteur d'abord, avant même d'être écrivain, chez ces auteurs-là, quelque chose qui me touchait profondément, qui me semblait répondre comme une forme d'écho à ce que j'étais, avant même parfois d'en avoir conscience.
Est-ce qu'on peut dire la même chose dans les autres arts, par exemple en peinture, Francis Bacon ?
Oui, sans doute, il y a quelque chose du regard que Bacon porte sur le corps, sur la violence, sur la mort, qui me semble avoir été plus particulièrement exploré par les artistes homosexuels, évidemment.
Est-ce que vous pensiez devoir publier ce livre, comment dirais-je, par l'effet d'une espèce d'obligation sociale ? Pour jeter le poids de votre autorité dans une question très controversée, ou bien était-ce par devoir vis-à-vis de vous-même, pour être fidèle à votre vérité ?
C'est extrêmement difficile de répondre, n'est-ce pas ? Le sentiment social s'est développé peu à peu en moi. À ce moment-là, le mot de obligation morale conviendrait bien davantage. Autrement dit, ça répondrait davantage au besoin de ne pas me trahir moi-même. À ce moment-là, je pouvais me croire très... Y a-t-il de l'orgueil à dire cela ? Je ne crois pas. Très particulièrement désigné par Dieu, n'est-ce pas ? Pour écrire ce livre.
Vous sentiez en vous
sentez
comme
une obligation, une obligation d'écrire cela, en me disant, pour ce livre en particulier, si ce n'est pas toi qui l'écris, qui l'écrira ?
André Gide, au micro de Jean Amrouche en 1949 sur la RTF. C'était au sujet de son livre Corydon, paru en 1925. Et on entend dans l'archive que les deux hommes sont très pudiques et parlent de sexualité, puisqu'il en est question dans le livre, d'homosexualité, avec 1000 précautions. Et la sexualité, elle est importante dans votre œuvre, Jean-Baptiste Delamo. Dans Une éducation libertine, il est question de fréquentation de maisons closes, dans Pornographia, de prostituées et de gitons à Vannet. Est-ce qu'écrire le sexe est excitant ? Ou est-ce qu'on est comme le magicien qui connaît les trucs du tour de magie ?
Ah, c'est une question qui n'est pas évidente. Non, j'ai pas le sentiment qu'écrire le sexe est excitant. Le lire peut éventuellement l'être. Mais je crois que dans l'écriture, il y a quelque chose qui se rapproche plus d'une forme d'artisanat, d'essayer, comment dire, de réussir à représenter l'acte sexuel depuis une sensibilité singulière. Et c'est plutôt ça que moi j'ai cherché à travers mes textes.
Est-ce que le sexe décrit par vous ressemble au sexe réel où on en est toujours éloigné finalement ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas transposer ?
Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas transposer. Et je pense qu'en littérature, la représentation du corps, de toute façon, est aussi quelque chose qui est systématiquement à côté de ce qu'est véritablement l'expérience corporelle. On peut chercher à nommer, que ce soit la jouissance, la souffrance, la maladie, la douleur, le chagrin. Il y a quelque chose de l'expérience qui échappe toujours.
On parlait du corps des hommes, mais on peut aussi parler du corps des femmes, puisque vous avez été aussi engagée au sein de la Maison des Femmes de Tours. qui faisiez-vous ? Enfin, d'ailleurs, en parlant de femmes, j'aimerais revenir sur une de vos citations. Vous dites, dans une interview, « J'ai été déçue, je n'attends rien de l'humanité, j'attends des hommes à titre individuel, et quand je dis des hommes, ce sont davantage des femmes aujourd'hui.
» Oui. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus ?
Vous avez plus d'espoir
Ouais, disons que je pense que je suis relativement misanthrope et en tout cas déçu de notre humanité. Aujourd'hui en particulier, j'ai l'impression de me lever tous les matins dans une très mauvaise dystopie qui aurait versé dans le patriarcat le plus dégueulasse et honté. Donc effectivement, je peux avoir foi en l'individu. Beaucoup moins dans les masses, dans le groupe, et très souvent forcé de constater que les avancées sociales, les grands combats sociaux sont portés par les femmes. Donc je crois que c'était le sens de cette citation, de ce que j'ai voulu dire lors de cette interview. Ouais.
Et dans la maison des femmes ?
La maison des femmes, c'était en réalité dans le cadre de cette immersion en institut médico-légal.
À Tours ?
Absolument. La maison des femmes dépend de l'institut médico-légal et accueille des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui sont en parcours de reconstruction. J'ai proposé, en contrepartie de ma résidence, un atelier d'écriture que j'ai animé pendant plusieurs mois. Et qui a été une expérience extraordinaire, parce que j'ai eu le sentiment véritablement qu'autour de l'écriture, et même s'il n'y avait pas, bien évidemment, je n'arrivais pas à cet atelier avec le désir ou la commande de leur faire parler de ce qu'elles avaient vécu. Les textes étaient tout à fait libres et sur des sujets beaucoup plus vastes, mais il n'empêche qu'elles ont réussi à mobiliser à la fois quelque chose de leur sensibilité personnelle, et aussi à s'en affranchir pour explorer la fiction, la poésie. Et voilà, je garde un souvenir très fort de ces quelques mois passés avec elles, des femmes admirables.
Dans La Nuit Ravagée, dans l'introduction, je parlais d'une ambiance, donc Stephen King, on va évidemment en parler, mais je parlais d'une ambiance à la Steven Spielberg, qui s'est encanaillé aussi du côté de l'horreur avec Poltergeist. Il n'a pas réalisé, mais il a beaucoup participé.
Absolument.
Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, film pour lequel nous avons un goût commun, je crois. Et en fait, je pensais à plusieurs des films de Spielberg où il y a des banlieues résidentielles, vous savez, avec des groupes d'adolescents qui s'ennuient un peu et qui se retrouvent. Parce que dans votre livre, il y a une maison au fond d'une impasse qui fascine une bande d'adolescents. Et cette maison, vous l'avez connue. Alors, elle n'était pas hantée comme dans votre livre, mais elle existe.
Elle a existé, en effet. Ouais. Donc, j'ai grandi dans un lotissement qui, étrangement, à la fois dans le cinéma français et dans la littérature française, reste une zone urbaine assez peu explorée, mais très présente dans le cinéma américain. C'est vrai, les suburbs ont toujours fasciné le cinéma américain, qui s'est beaucoup plu à montrer de quelle façon est-ce qu'il pouvait dévoiler quelque chose de la noirceur, de l'obscurité de l'American way of life. Et dans ce lotissement dans lequel j'ai grandi, existait une maison que nous, enfants du lotissement, avions toujours connue abandonnée et fermée. Et qui nous fascinait, dans laquelle on désirait énormément entrer. C'était pourtant un pavillon tout à fait banal, mais on a fini par renforcer la porte.
Et c'était décevant ?
C'était à la fois décevant et extrêmement excitant. Décevant parce que ça ressemblait à une maison figée dans les années 70-80, mais dont les habitants auraient disparu du jour au lendemain. Je me souviens très bien que le petit déjeuner était encore posé sur la table, les brosses à dents étaient laissées dans la salle de bain, mais on avait retrouvé des cassettes audio qu'on avait emportées avec nous et qu'on avait écoutées sur nos radiocassettes. Et sur ces cassettes, une femme, probablement l'ancienne propriétaire, s'était enregistré.
Alors, il y a quelque chose de ce goût-là dans La Nuit Ravagée, mais je ne le dévoile pas. Mais c'est une maison que vous avez imaginée. Je peux dire ce qui s'y passe en partie.
Oui, je pense, oui, absolument.
Où on peut en fait voir ce qu'on redoute le plus et ce qu'on désire le plus.
C'est ça, oui. La maison a cette capacité de donner forme aux désirs et aux peurs enfouies. Donc, bien évidemment, pour ce groupe d'adolescents, ça va d'abord être une fascination absolue, un désir irrépressible d'y retourner, presque une addiction. D'autant plus qu'ils pensent que ce qui a lieu dans la maison reste dans la maison et ne peut pas contaminer leur réalité. Mais bien évidemment, les choses sont un peu plus complexes que cela.
Comme dans Les Griffes de la Nuit, dont on parlera dans quelques instants.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer?
Oui, oui, s'il vous plaît.
Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Gripsou? Ouais, je vous présente Georgie. Georgie, voici Gripsou le clown. Voilà, maintenant on se connaît, n'est-ce pas?
L'adaptation du roman horrifique de Stephen King, Ça, en 2017, par Andrés Muschietti. Jean-Baptiste Delamo, en exergue de votre roman La Nuit Ravagée, il y a un extrait de Ça et l'allusion dans le livre du Club des Ratés. Le Club des Ratés, ouais. C'est les garçons qui s'associent dans le roman. Votre goût pour l'horreur vient de l'enfance et des bibliothèques municipales, et ça, on le partage aussi.
C'est vrai? Eh bien oui, oui, oui. Et je crois qu'il est d'ailleurs indissociable de mon affection pour le cinéma horrifique. Ça a été concomitant.
Le vidéoclub où j'allais à 10 ans aussi. Comment est-ce qu'on pouvait accepter de nous prêter des cassettes
mais
aussi
horribles? Je ne sais pas, c'est un mystère. Je me souviens d'avoir passé de longues heures à regarder les jaquettes parce qu'il y avait aussi un sentiment d'interdit. C'est-à-dire que certaines, je savais que je n'avais pas le droit de les louer. D'autres, je les enregistrais en douce sur le magnétoscope en le programmant, etc. Mais effectivement, il y avait un sentiment d'interdit. Et puis, il y avait aussi quand même cette sensation, cette espèce d'intuition que ces films-là, ces livres-là, disaient quelque chose de mon époque et de mon adolescence. Ils donnaient forme à des peurs.
Alors, j'ai aussi pensé en vous lisant à Poe et Lovecraft, notamment pour cette phrase très courte qui se situe vers le début du roman, « Il vit la chose ». Ouais. C'est terrifiant parce que ce n'est pas décrit, justement.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose chez Lovecraft qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne décrit jamais. Il y a toujours quelque chose qui excède le langage, qui dépasse le langage, ou qui se refuse à la description. C'est toujours à la limite de ce qui est... C'est l'indicible, en fait. Et c'est ça qui nous terrifie.
Bien sûr.
J'ai pas arrêté de revoir son visage. Et ses affreux ongles.
Ses affreux ongles.
Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler un cauchemar que j'ai eu cette nuit.
C'était quoi ton cauchemar?
Il y avait un mec avec un vieux pull vert. Non,
parce qu'il l'a massacré sous mes yeux.
Et c'est un cauchemar.
1984, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, titre français trouvé par Claude Chabrol.
Ah oui,
oui.
Je l'ignorais.
Et c'est le film auquel j'ai le plus pensé en vous lisant Jean-Baptiste Delamo. Déjà parce que vos personnages font des rêves en commun. Et à un moment, il y a un des jeunes qui parle de sa mère et qui dit « J'ai compris qu'elle ne pouvait rien pour moi ». Et ça m'a fait penser à la solitude absolue de l'héroïne des Griffes de la Nuit. Et je vous en ai parlé juste avant qu'on commence cette émission, vous étiez d'accord?
Absolument.
C'est vraiment en fait, la plus grande terreur ontologique qu'on a dès le début, c'est quand on se rend compte que les parents sont décevants, et ils le sont tous dans ce film.
Voilà, qu'ils ne peuvent plus rien pour nous. Il y a quelque chose dans Les Griffes de la Nuit qui est vraiment frappant et qui, je trouve, contribue à cette espèce d'atmosphère extrêmement pesante, étrange. C'est qu'on sent que ces gamins, qui sont pourtant dans une banlieue résidentielle relativement cossue, etc., sont tout à fait livrés à eux-mêmes et sont dans une position de fragilité extrême parce que les parents ne peuvent plus rien pour eux. Ils sont poursuivis dans leurs rêves par quelque chose qui peut les tuer dans la réalité. Et ce parti pris de Wes Craven, il était absolument génial parce que, bien évidemment, ces gosses, ils se retrouvent livrés à la terreur absolue.
Et à eux-mêmes, et les parents ne tiennent pas leurs promesses ou ils sont alcooliques. Enfin, il y en a, vraiment, j'avais fait attention, il n'y en a pas un seul qui rattrape le concept de parent.
C'est vrai, et je trouve que ça disait quelque chose aussi de la manière dont les gamins étaient élevés dans ces années-là, et de la façon dont la famille, sous des apparences tout à fait respectables, pouvait aussi se détraquer et dysfonctionner.
Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong.
Transmitter pod with me that first time when I was alone.
I'm afraid!
Don't be afraid!
No. Be afraid.
be very afraid.
Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous passer tous les films d'horreur auxquels vous faites allusion dans votre livre, Jean-Baptiste Delamo, mais quand même, étant vraiment amatrice de films d'horreur, là, je n'ai pas pu résister. On entend un film de 86, La Mouche, de David Cronenberg, qui viendra le mois prochain dans l'émission.
Oh, waouh.
Oui, ouais. Ouais, waouh, ça, je pense qu'on
Vénard,
peut... Oui, ça, jalouse. Vraiment, moi aussi, je suis jalouse de moi-même. Et alors, c'est un de vos films préférés, La Mouche, que vous... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez comme une métaphore sur la maladie, et vous parlez aussi des années 80, et d'être homosexuel dans les années 80, qui étaient les années SIDA.
Absolument.
Je suis née dans les années 80, on a grandi avec cette peur.
Oui, oui. Effectivement, quand en grandissant en tant qu'homosexuel dans les années 90, et qui plus est en province, on grandissait dans une solitude extrême, sans repère positif, identitaire, dans le secret, dans le mensonge. Aussi un mensonge qui devait nous préserver, qui était un peu la condition de notre survie. Et puis on vivait avec cette espèce de menace, de couperet de la maladie dont on entendait parler à travers le poste de télévision essentiellement, et qui était l'épidémie du sida. Cronenberg a maintes fois expliqué que son film n'était pas une métaphore du sida, qu'il était avant tout une métaphore de la maladie, de la vieillesse, de la monstruosité. Mais il n'empêche que pour de nombreux spectateurs, et je crois en particulier pour moi en tant qu'adolescent, et bien que je n'ai pas été capable à cet instant-là de le nommer de cette façon-là, il y a quelque chose dans ce film qui m'avait profondément marqué, à la lumière justement de ce que je percevais du monde et de cette épidémie. Il y avait quelque chose de l'atteinte du corps qui me semblait être totalement saisi par Carpenter et mis en scène de façon tout à fait à la fois spectaculaire et horrifique, mais aussi déchirant.
Vous citez dans les nombreux films d'horreur qu'on voit dans votre roman La Nuit Ravagée, bon il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a deux, en parlant de l'atteinte faite au corps, c'est Brain Dead de Peter Jackson, l'un des films les plus drôles et gore de l'histoire des films d'horreur.
Ouais.
C'est hilarant, c'est vraiment, enfin, faut pas le regarder en mangeant. Et il y a Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, et ça je vous avoue que même moi, je n'ai pas osé le regarder.
Ouais,
vous
moi aussi, je l'ai vu ado, mais je pense pas que c'est le genre de film que je pourrais revoir. Brain Dead, en revanche, j'ai vraiment des souvenirs de fou rire absolu à me tordre par terre, tellement je hurlais de rire en voyant ça.
Quand les zombies copulent.
Ouais, tout à fait. Mais c'était important pour moi. Je crois que quand on choisit d'écrire un livre de genre, on est obligé de travailler avec ce qui a déjà été fait. Il y a des codes qu'il faut à la fois respecter pour mieux pouvoir les détourner. Et c'était important pour moi de rendre un peu un hommage à cette littérature et à ce cinéma qui ont été si importants pour moi dans mon adolescence, qui ont façonné aussi mon imaginaire, tout en gardant aussi ce désir de raconter une adolescence, une époque et une génération.
Et vous le faites très bien, puisqu'on a peur dès le premier chapitre. Je ne raconte pas. On remarque que vos personnages se débattent souvent avec une forme de déterminisme social, familial ou psychologique. Est-ce que vous vous considérez comme un naturaliste ?
Ah, peut-être bien, oui. En tout cas, effectivement, c'est souvent le cas chez mes personnages et je crois que chez ces adolescents de La Nuit Ravagée, ils sont aussi conscients, en réalité, de ce qui les empêche. Ils ont ce désir d'émancipation. Ils se demandent de quelle façon est-ce qu'ils vont pouvoir échapper à ce schéma de répétition et éviter de devenir leurs propres parents ou à l'image de leurs propres parents. Ils se débattent avec ça. Et je crois que c'est finalement ce que la maison leur offre en partie, c'est de vivre une expérience plus intense, quelque chose qui les arrache à leur vie, qui les déplace. Et c'est pour ça que ça devient autant addictif pour eux aussi.
Ne croyez-vous pas que les films d'horreur sont cathartiques parce que tout est possible et que souvent ça met quand même en scène des enfants dans des familles dysfonctionnelles ?
Absolument, tout est possible, mais ça arrive aux autres. C'est-à-dire
oui,
que
oui, ça c'est un soulagement.
Voilà, c'est un soulagement de se dire, mais finalement, je peux le regarder sur la télé, donc ou sur un écran de cinéma, ça ne m'arrive pas à moi. Donc il y a quelque chose à la fois qui nous tient à distance, mais qui nous permet de contempler nos peurs les plus intimes, les plus profondes, et le cinéma de genre, de manière générale, a véritablement été un baromètre de chacune des époques qu'il a traversées, en dévoilant justement ses peurs profondes.
Alors en tout cas, vous reprenez absolument parfaitement tous les codes du roman horrifique. Et évidemment, dans les codes du roman horrifique, il y a souvent des adolescents qui ont soit des familles dysfonctionnelles, des parents violents ou qui sont brutalisés à l'école, qui sont des victimes, qui sont victimes de racisme ou qui se font cracher dessus. Bon, je ne dis pas de qui il s'agit. Il y a un moment, Céline, que vous écrivez à propos d'un élève qui subit des agressions, c'est Jean-Philippe Cazot, son nom. L'un de ces gosses qui traversent l'enfance comme un purgatoire dont ils attendent l'issue avec résignation, que la présence des autres enfants met mal à l'aise et qui préfèrent la compagnie des adultes. Et je me suis demandé si ça avait été votre cas.
Oui, oui, je pense que ça a été en partie mon cas. J'ai l'impression d'avoir eu deux enfances, à la fois une enfance heureuse, dans une famille aimante, et à la fois une enfance qui était aussi très secrète, parce que je devais me préserver du fait de mon identité, dont j'avais conscience avant même de pouvoir la nommer, et puis aussi une enfance qui a été exposée à la violence des autres enfants. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut se construire, et dont on... Je crois qu'on continue de porter le poids sa vie durant.
On parle de corps finalement depuis le début de l'émission, puisque même les corps qui sont mutilés dans les films d'horreur ou les corps qui sont désirés quand on s'adonne à la bagatelle avec eux, enfin, dans tous les cas, il s'agit du corps. Et vous, Jean-Baptiste Delamo, justement, vous abordez les personnages dans vos livres plutôt par leur corporalité plutôt que par leur psychologie. Et ça va très loin, puisque même vous faites quelque chose qu'on voit rarement en littérature. Il y a une scène très réaliste, c'est quand un des personnages, Max, doit retrouver une fille pour un rendez-vous galant et il a envie de faire ses besoins. Et il regrette de ne pas y être allé avant. Mais moi, je trouve ça bien de le soulever. C'est arrivé à tout le monde, non?
Mais c'est arrivé à tout le monde d'avoir envie de chier avant un rendez-vous galant. Je vois que vous avez...
Évidemment, car je suis un dandy.
Mais oui, je veux dire, c'est aussi ce qui fait partie... Enfin, c'est aussi ce qui rend des personnages humains. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne quand dans les livres ou beaucoup, souvent dans les films...
On ne va jamais aux toilettes.
On ne va jamais aux toilettes. Sauf dans Eyes Wide Shut, quand on voit Nicole Kidman assise de manière très sexualisée sur les toilettes. Mais en tout cas, voilà. Je crois que j'essaie véritablement d'envisager mes personnages par leur physicalité, par leur corporalité. Et c'est aussi par ce prisme, je crois, que j'essaie de donner au lecteur la sensation physique d'être immergé dans une lecture.
Est-ce que vous avez cette hyper-acuité que vous semblez décrire dans le roman, c'est-à-dire qu'on sent les odeurs de sueur, de cigarettes, le toucher, vous décrivez absolument tous les sens, il y a une vraie acuité.
Ah ouais. Ouais, j'ai un odorat extrêmement développé. Ça m'arrive d'ailleurs régulièrement de collaborer avec des nez en parfumerie ou des Et c'est quelque chose que je mobilise énormément. En réalité, j'ai l'impression que même ma mémoire est uniquement basée, je veux dire la mémoire de mon enfance, etc., est quasiment uniquement olfactive. C'est-à-dire que chaque souvenir que j'ai est associé à une odeur.
Suddenly I'm hitting, it's the start. friends are gone, when your friends won't come, so show me where you fit. So show me where you fit. I'll wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now.
James Blake, le morceau Rétrograde, c'est le standard de ce soir dans la 20e heure sur France Inter. Et voici Jean-Baptiste Delamo, votre choix musical.
Titties sitting up high, miss nigga tough guy, sipping on a Mai Tai, money on the uprise, left right uppercut, punchlines make them duck, right hooks up the cut, platinum hits fuck is up, pop star, rock star, dark skin bitch, 24 inch waist man, dingo dick, do you wanna take a ride on my ego trip, slow down when you ride in this ego stick, yiddy, like a cable we jump poles, if a bitch feeling froggy tell her hop out, bitch, like a cable we jump poles, Twitter fingers get your whole life logged out, bitch.
Qu'est-ce qu'on entend?
Doechii, Bullfrog. C'est vraiment, je trouve, son album, c'est un des meilleurs albums rap de l'année passée. Je la trouve exceptionnelle. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre chanson, n'importe quel autre titre de l'album, mais j'adore cette ligne de basse avec ce beat derrière. Je trouve ça juste génial. Et pour ceux qui connaissent pas encore, elle a fait récemment, j'ai vu une vidéo, c'est Tiny Desk Concert. C'est des concerts qui sont réalisés dans un tout petit espace où elle est accompagnée d'une dizaine de musiciennes et c'est démentiel, elle est extraordinaire.
On mettra évidemment la référence sur le site internet. Je vais demander une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi la série Las Messias de Javier Ambrosi et Javier Calvi.
La Messias, ouais, c'est une série espagnole qui raconte l'emprise d'une mère sur ses enfants. J'ai trouvé cette série vraiment stupéfiante, à la fois formellement novatrice, inattendue et extrêmement juste dans ce qu'elle dit des mécanismes d'emprise au sein de la famille.
Le corps du pangolin est recouvert d'écailles. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin se met en boule. Ses écailles se referment à la façon de certaines persiennes. Et vous pouvez voir à présent ses griffes, les griffes des pattes antérieures. Celles dont il n'use pas pour marcher, mais qui lui servent à creuser.
J'adore l'idée de se refermer comme certaines persiennes. C'est un documentaire de 62, Le Pangolin, Caméra d'Afrique, par Armand et Michaela Denis. Et je voulais diffuser un documentaire désuet et charmant, Jean-Baptiste Delamo, pour vous faire parler de votre rapport à la nature et aux animaux. Mmh. Parce que ça traverse toute votre œuvre, que ce soit dans Règne animal ou même dans des récits jeunesse comme toi. Et vous avez fait des recherches en géologie, en botanique. Et petit, vous appreniez les noms latins par cœur.
Oui, c'est vrai. En fait, je crois que parmi mes premiers souvenirs de lecture, il y avait les guides des insectes ou les guides des reptiles et des amphibiens de nos régions. Il y avait ça dans la bibliothèque familiale. Et je l'ai feuilleté vraiment avec passion, parce que déjà, je passais énormément de temps à observer et à capturer ces petites créatures autour de chez moi, dans le sud-ouest de la France. Mais j'étais aussi fasciné par les noms latins, par la description anatomique de ces animaux. J'avais véritablement l'impression qu'il y avait une forme de poésie là-dedans.
Quel animal seriez-vous ?
Ah, bonne question. Je dirais, j'ai vraiment un faible pour le serpent.
Ah oui ?
Ouais, Ouais, j'aime énormément les serpents.
Alors, réhabiliter les serpents ce soir.
Je trouve que c'est une créature extraordinaire, à la fois d'une grande timidité. Chez moi, à la campagne, je leur installe des tôles pour qu'elles puissent se cacher. Dessous, je parle au féminin parce que ce sont essentiellement des couleuvres. Et très régulièrement, je vais les observer pour voir est-ce qu'il y en a de nouvelles, est-ce qu'elles ont eu des petits, est-ce qu'elles ont mué, etc. C'est à la fois un animal indispensable au maintien d'un équilibre de nos biotopes. Et puis, je trouve que c'est aussi esthétiquement, c'est d'une beauté absolue.
C'est gracieux dans son ondulation.
Ouais,
vous les touchez ?
Je les touche, ouais. Mon père m'a appris très tôt à différencier les espèces de couleuvres, à les différencier des vipères, à savoir comment les manipuler aussi. Donc, il peut effectivement m'arriver de les attraper.
Vous n'avez jamais eu de problème avec un animal ?
Non.
Une morsure, une piqûre.
Ah si, je me suis fait mordre maintes fois par des couleuvres de toutes sortes, mais rien qui m'ait laissé des blessures inguérissables.
Vous êtes courageux.
Au fond, tout est d'un don de Dieu, si vous voulez. La beauté, la nature, la beauté, l'art. Là, les artistes ne sont que des transmetteurs. Mais en même temps, je trouve l'art, comme la vie du reste, une activité un peu idiote, si vous voulez, une activité répétitive. Un peintre, vous savez, qui est là avec son pinceau, encore maintenant, avec son pinceau qui revient, ça a quelque chose. Bon, l'écrivain qui revient qui barre ses mots, ça, c'est une activité encore d'enfant, enfantine. Mais c'est grandiose en même temps, parce que c'est ce qui fait durer aussi l'humanité.
J'aime bien finir les émissions avec des recommandations de lecture. Jean-Baptiste Delamo, on entend un des écrivains qui a compté pour vous. C'est Pierre Guyotat dans Boomerang d'Augustin Trapenard en 2018. Et je crois que les ouvrages Eden, Eden, Eden et Tombeau pour 500 000 soldats sont des ouvrages que vous affectionnez.
Absolument, je me souviens de l'état de sidération dans lequel j'étais en découvrant Eden, Eden, Eden. Je crois que j'avais jamais ressenti ça depuis la lecture de Sade, en fait. Cette possibilité à la fois de l'imaginaire et du langage. La façon dont Pierre Guyotat réinvente une langue et ouvre le champ de tous les possibles. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que ça fait partie de ces instants de lecture où on a le sentiment d'être face à l'essence même de la littérature. Donc pour moi, dans ma formation de lecteur, ça a été une lecture extrêmement importante.
Il y a eu Sade, il y a eu Genet, il y a eu Proust et Claude Simon.
Oui, Claude Simon, c'est aussi à la fois cette capacité à réinventer la langue et cette écriture du sensible, c'est-à-dire que Claude Simon avait c'était un voyant. Il avait cette capacité à démasquer, à déshabiller le réel pour saisir ce qui frémit au-dessous. Il y a quelque chose dans ses descriptions comme ça qui m'a époustouflé et qui encore aujourd'hui me porte. Je sais qu'il m'arrive par instant d'avoir du mal à me remettre par exemple à l'écriture d'un texte, et il y a quelques auteurs, dont Claude Simon, dont il me suffit d'ouvrir un livre, n'importe lequel, à n'importe quelle page, pour retrouver quelque chose d'un flow, d'un rythme, d'une musicalité qui me porte et qui me nourrit.
Alors je vous demanderai pour finir un seul titre à lire pour les auditeurs de Claude Simon. Par quoi commencer ?
Je commencerai par L'Acacia. Je pense que c'est à la fois un de ses livres les plus accessibles et qui englobe aussi la totalité de son œuvre.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamo.
Merci à vous.
Votre livre « La nuit ravagée » vient de paraître chez Gallimard. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Etel Alzial et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Laurent Baudouin.